Toi seul ouvrais Avignon et puis ses remparts, son avenue de la République.
Entendez-vous souvent cette voix ?
Il n'est jour que je l'entende et même j'en ai bien besoin.
Prends mes clés, disait Avignon au jeune homme tremblant que j'étais. Prends mes clés.
La voix était-elle dans votre chambre ?
Non, mais elle était dans le château.
Mon corps, prends-le. Je suis un corps. Je suis le corps chaud de tous ceux qui aiment la mort.
Que vous a dit la voix quand vous fûtes réveillé ?
Elle m'a dit de vous répondre hardiment.
La beauté.
Méfiez-vous de ce que vous faites, car en vérité, je suis envoyé de par Dieu et vous vous mettez en grand danger.
Les fantômes.
Cette voix vient de Dieu.
Je suis Avignon.
Je crois fermement qu'elle vient de Dieu et par son ordre. Et j'ai plus peur de me tromper en disant ce qui pourrait déplaire à cette voix que de vous répondre.
Eh bien, ce sera beau. Ce soir, dans le rendez-vous en direct sur France Culture, il sera question de Molière, de Robert Bresson, de Jean Villard, de Pascal Rambert, de Jacques Roubaud et peut-être même de Gérard de Villiers. Avec Denis Podalydès de la Comédie Française en acteur au cinéma dans Comme un avion sans ailes de Bruno Podalydès, au théâtre dans Lucrèce Borgia, dans la tragédie d'Hamlet, après avoir terminé Avignon à vie de Pascal Rambert, et puis en metteur en scène du bourgeois gentilhomme de Molière, sans oublier l'éternel lecteur de Guerre et Paix sur France Culture. Ça fait beaucoup. Émilie Chaudet.
Boulimique, adjectif devenu synonyme dans la presse de Denis Podalydès au travail, le comédien metteur en scène et écrivain qui base son travail sur ce paradoxe du comédien, cette vieille idée, dit-il, que les acteurs sont bâtis sur une faiblesse et que cette faiblesse serait compensée par le jeu.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile ce soir. Xavier ?
Je vais parler de la meule rotative à Rome, à la Rome antique.
À la Rome antique, très bien, j'ai encore rien compris, mais tout va s'éclaircir tout à l'heure.
C'est hyper clair ?
Oui, mais pour quelqu'un qui travaille sur le net, ça l'est un peu moins. 19h35, plateau Académie française avec Florence Delay qui signe La vie comme au théâtre, un récit autobiographique centré sur son rapport au théâtre, celui d'une écrivaine au phrasé bressonien, Émilie.
Double de Marina Vladi, alter ego d'Anne Wiazinski, retour sur le parcours d'une femme de théâtre qui a fondé son monde sur la triple signification du mot espagnol sueño, sommeil, songe et rêve.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, que l'on ouvre sur le son du jour. Alors, ce son du jour, Zoé.
Alors, eh bien, c'est un son du matin, puisque ce matin, l'architecte Jean Nouvel a tenu une conférence de presse pour régler ses comptes avec la Philharmonie de Paris. Projet titanesque, je vous le rappelle, qui aura coûté près du double de son budget initial. Dessiné donc par Jean Nouvel, elle a ouvert avec plusieurs mois de retard au début de cette année. Et l'architecte a refusé d'assister à la cérémonie d'ouverture. Et il a publié une lettre dans laquelle il annonçait qu'il lançait une procédure contre la Philharmonie, car le bâtiment n'était pas conforme à ce qu'il avait dessiné. Aujourd'hui, il s'est exprimé pour la première fois en indiquant, eh bien, qu'il refusait de porter le chapeau du dépassement de budget, qu'il avait été évincé du projet par la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la direction de la Philharmonie, et par l'entreprise en charge des travaux, à savoir Bouygues, qu'il tient pour responsable justement de la gabegie financière. Il se dit traumatisé par cette expérience, il m'a expliqué pourquoi.
C'est le fait d'être traité comme si je ne faisais pas partie de l'équipe de construction de ce projet, parce que pour moi, un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre travaillent ensemble. Et là, j'ai bien compris très vite que j'étais l'ennemi. Je l'explique sûrement par le fait que les entreprises aujourd'hui ont un poids énorme sur les situations et que le choix de la maîtrise d'ouvrage a été de travailler le plus près possible de l'entreprise en donnant le maximum de pouvoir à l'entreprise. Et d'ailleurs, le résultat est là pour le prouver. Je ne renie évidemment pas le projet que j'ai fait. Je ne renie absolument pas les options que j'ai prises. Je renie uniquement l'exécution de ce projet. Donc ce que je renie, c'est cela, et je voudrais qu'on corrige les principales fautes de la Philharmonie, les principales défaillances aussi sur les prestations, et je voudrais qu'il retrouve une cohérence.
Jean Nouvel qui dit qu'aujourd'hui la Philharmonie lui réclame d'énormes sommes de pénalités pour retard, mais qu'il est prêt à arrêter toute procédure judiciaire si la Philharmonie lui permet, pendant cet été, de reprendre et de terminer le chantier pour faire les finitions qu'il estime nécessaires.
Et l'on passe tout de suite au dossier du jour consacré au conflit qui oppose la nouvelle ministre de la Culture et des Sports israélienne, Miri Regev, au monde du théâtre israélien. Nommée à ce poste il y a un peu plus d'un mois, la nouvelle ministre a décidé de geler le budget du théâtre Al-Midan de Haïfa, qui propose depuis plusieurs semaines une pièce polémique qui met en scène des prisonniers palestiniens. Dimanche dernier, plusieurs centaines de metteurs en scène et de comédiens ont manifesté contre la vision nationaliste de la culture défendue par cette nouvelle ministre.
Alors cette nouvelle ministre, Myriam Regev, c'est depuis plusieurs années l'un des ténors du Likoud, le parti de droite de Benjamin Netanyahou qui vient de remporter les élections. En arrivant à ce poste, elle a tout de suite prévenu dans un message Facebook « Je suis en faveur de la liberté d'expression, mais jusqu'à un certain point. Je sais où fixer les limites sans porter atteinte à cette liberté. » Et en fait, le cas s'est assez vite posé avec donc cette pièce Parallel Time présentée au théâtre Almidan de Haïfa, devenue très polémique puisque cette pièce raconte la vie en prison de militants palestiniens. C'est une version romancée de l'histoire de Walid Dakka, un israélo-arabe condamné à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre du soldat israélien Moshe Tamam en 84. La famille du soldat a été très heurtée par la pièce. La ministre a condamné il y a plusieurs semaines une pièce qui, dit-elle, faisait l'apologie du terrorisme. Et là, elle vient hier donc de couper les subventions du théâtre en justifiant sa décision par un rapport du Conseil des arts et de la culture israélienne qui dit que le théâtre a des sources douteuses de financement. Une décision qui a choqué le milieu du théâtre israélien. Écoutez le directeur cofondateur du théâtre de Jaffa, Yigal Ezerti.
Tout d'abord, il y a ce problème avec le théâtre de Haïfa. Elle a annoncé hier qu'elle allait geler leur budget à cause de ce spectacle. Moi, je l'ai vu, ce spectacle. Il n'y a rien de polémique. On voit juste quatre prisonniers qui sont en cellule et qui essayent de fabriquer des instruments de musique pour le mariage de l'un d'entre eux. Il n'y a rien sur le terrorisme ou pour justifier le terrorisme. Et puis, la ministre a aussi menacé le metteur en scène, Norman Issa, qui joue souvent avec nous parce qu'il a refusé d'aller jouer dans les colonies. Elle a menacé de couper le budget de son théâtre pour enfants, et c'est ça qui a mis le feu aux poudres.
Car ce gel de subvention n'est pas un cas isolé.
Non, en effet, il y a une semaine, le metteur en scène israélo-arabe, donc Norman Issa, qui tient un théâtre pour enfants, a refusé d'aller se produire dans une zone de Cisjordanie occupée par des colons israéliens. La ministre, qui n'a pas donné suite à notre demande d'interview, hein, je tiens à le préciser, a déclaré à ce moment-là dans la presse « Si Norman ne change pas d'avis, j'envisage de réexaminer le soutien de mon ministère apporté à ce théâtre qui opère sous sa direction. Le gouvernement n'a pas l'obligation de soutenir la culture. Je peux décider là où va l'argent et les artistes ne me dicteront pas mes choix. Si nous tombons d'accord sur ces principes, je serai leur partenaire. Dans le cas contraire, nous aurons un problème. » Alors du coup, suite à ces déclarations, dimanche, plusieurs centaines de metteurs en scène, de comédiens, de techniciens du théâtre ont manifesté contre ces propos. Mais finalement, très peu ont accepté de me parler. Yigal Ezerti, directeur du théâtre de Jaffa, dénonce en fait un climat de peur.
Notre combat aujourd'hui, c'est celui de la liberté d'expression. Il faut qu'il n'y ait pas de lien entre l'argent que nous donne l'État et ce que nous présentons sur scène. L'indépendance, c'est la condition sine qua non dans le théâtre. Le théâtre doit être provocateur, controversé, poser des questions. Mais les gens ne comprennent pas ça. Si quelqu'un dit quelque chose sur scène, ça ne veut pas dire que moi, le directeur, c'est ce que je pense. Je pose une question et je laisse le public se faire son avis. Ce dont j'ai le plus peur, en fait, c'est de l'autocensure, que nous ayons tellement peur que cela affecte notre programmation. C'est ça ce que je redoute, plus que ce que Mme Regev peut faire elle-même.
Voilà, et alors plusieurs grandes figures du théâtre israélien ont lancé donc depuis dimanche une pétition intitulée « Liste noire » dans laquelle ils assurent qu'ils continueront, je cite, « à exprimer leurs opinions et à obéir à leur conscience, même si vous exigez que nous en payions le prix ». Et ils se sont même engagés à entrer en grève s'ils devaient faire face à un nouveau cas de censure.
Certainement des réactions de la part de nos deux invités, qui ont un rapport plus que certains au théâtre. Denis Podalydès et Florence Delay. Denis Podalydès.
Oui, moi je suis immédiatement solidaire avec tous les gens de théâtre et le directeur de cette salle. Si on commence à dire que la liberté d'expression a des limites, ce n'est déjà plus la liberté d'expression. Déjà, il y a une négation, contradiction dans les termes. Et précisément, les lieux où il doit y avoir une absolue liberté d'expression, c'est bien les théâtres. Les théâtres, c'est le lieu où on rend compte de toutes les contradictions du monde. Cette ministre s'est fait un terrible abus de pouvoir. Et quand elle dit « les artistes, je fais ce que je veux avec eux », enfin c'est scandaleux, c'est quasiment un discours totalitaire.
Florence Delay.
Le théâtre est fait pour poser des questions. Et s'il n'est pas d'une totale liberté, et s'il n'est pas frondeur, et s'il n'est pas audacieux, il n'a pas lieu d'être. Moi, je pense, à travers ma vie, au tombeau pour ses amis soldats de Guillotat, je veux dire, à des pièces de Genet. Je veux dire, le théâtre, c'est ça qui le rendait vivant. C'était les discussions qu'il suscitait à la fin, mais pas en le supprimant avant d'exister.
poursuit avec les brèves. Non, il n'y en a pas, peut-être.
Bah, si, il y en a.
Il y en a un petit peu. Très bien. Allez-y.
Toujours, Catherine Pégard, directrice du château de Versailles, a porté cet après-midi plainte pour acte de vandalisme perpétré hier matin contre l'installation monumentale Dirty Corner d'Anish Kapoor, qui est donc exposée sur le tapis vert de Le Nôtre à Versailles, qui a fait polémique pour son caractère sexuel. L'ampleur de ce vandalisme s'est révélée beaucoup plus importante qu'escomptée.
Pierre Lescure et Jean-David Blanc veulent révolutionner la distribution des programmes de télévision.
Le créateur de Canal+ et le fondateur d'Allociné annoncent qu'ils lancent à l'automne prochain Molotov.tv, un service qui sera lancé donc après une phase de test. Les deux créateurs n'ont pas dévoilé les détails de cette offre ni ses fonctionnalités. On sait seulement que son but est d'offrir une nouvelle manière de consommer les programmes diffusés à la télévision.
Disparition du baryton français Franck Ferrari à 51 ans.
Formé à Nice, Franck Ferrari était l'un des meilleurs barytons de l'Hexagone. Il a obtenu plusieurs grands prix et a excellé notamment dans le répertoire français, exhumant plusieurs opéras oubliés comme Fiesque de Lalo aux côtés de Roberto Alagna. Son grand rôle vedette, évidemment, c'était Escamillo de Carmen, qu'il a interprété sous la direction, par exemple, de Jean-Claude Casadesus ou de Michel Plasson dans les plus grandes salles du monde, du Met de New York à l'Opéra de Turin.
Eh bien, c'est la dernière.
C'est la dernière, elle est toute petite, elle est sympathique. C'est une histoire de cris de poulet qu'on égorge, de voyage dans le temps par l'oreille. Une histoire comme je les aime et que je vous invite à vivre. En tout cas, j'espère qu'on la vivra tous ensemble bientôt. Et oui, il y a une musicologue, Mylène Pardoen, du laboratoire Passage 2021, qui a présenté hier à la Cité des sciences et de la musique la première reconstitution historique sonore. Et ça, c'est super sympa. Je vois que Xavier Delaporte a forcément suivi ce dossier. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Elle a reconstitué les bruits qu'on pouvait entendre à Paris au XVIIe siècle en se basant sur le célèbre plan... XVIIIe siècle, pardon. En se basant sur le célèbre plan Turgot-Bertrès qui date de 1739, justement, soit au total 70 petits tableaux sonores qu'on pouvait découvrir dans une vidéo de 8 minutes 20. On se retrouve dans le quartier qu'on appelait à l'époque du Grand Châtelet, entre le pont au Change et le pont Notre-Dame. À ce moment-là, il y a le Châtelet qui est encore une prison. J'ai choisi ce quartier car il concentre 80% des ambiances sonores du Paris de l'époque, puisque tout était très resserré. Et alors, comme Patrick Suskind nous avait révélé dans son livre Le Parfum, et bien qu'au XVIIIe siècle, Paris puait, et bien là, on découvre qu'au XVIIIe siècle, Paris, c'était très très bruyant. On a les caquettements de volailles qu'on égorge au marché, les hennissements des chevaux, les cris des mouettes, les cris des vendeurs sur le marché. Bref, c'est un projet qu'on espère on pourra découvrir dans les musées historiques de la ville de Paris, puisqu'elle l'a présenté hier et elle espère qu'il trouvera preneur.
Est-ce qu'il y a des réactions à tout ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, de Denis Podalides?
Moi, je suis bloqué sur cette histoire.
Je me dis,
il faudrait que la communauté théâtrale française, le théâtre, c'est le lieu de l'international, puisse vraiment réagir, faire un communiqué. Je souhaiterais aussi que la ministre de la Culture française prenne position sur cette question. En fait, en y réfléchissant, immensément choquant. Et s'il y a une communauté théâtrale internationale, elle doit se manifester à cette occasion-là.
Donc vous allez être le maître d'œuvre d'une pétition, de lancement de quelque chose, Denis Podalides, ce soir, c'est un appel.
Je suis tellement pas doué pour réussir pratiquement à engager ce genre d'action, mais je souhaiterais qu'il y ait une réaction rapide et que ce directeur de théâtre sache qu'il y a une réaction immédiate en Europe, dans le monde, à cette nouvelle qui me paraît très violente.
Question de Denis Podalides. Tartuffe a bien été interdit.
Oui, absolument.
Alors là, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas pour le moment d'interdire les pièces, mais juste de geler les subventions publiques. Donc, mais systématiquement, s'il y a quelque chose qui visiblement ne plaît pas.
La pièce elle-même n'est pas interdite.
Non. Alors là, non. Pour le moment, non.
Mais la ministre est Tartuffe.
Mais voilà. La ministre a une attitude visiblement extrêmement offensive, très peu négociatrice. Et je pense que ce directeur a besoin d'un soutien, même symbolique. C'est très fort dans ces moments-là.
Eh bien, on compte sur vous.
Le rendez-vous.
Plateau mise à nu avec vous, Denis Podalides, comédien, metteur en scène, écrivain, sociétaire de la Comédie française. À vos côtés, Florence Delay, donc écrivaine, actrice, scénariste, traductrice de l'Académie française. Vous vous connaissez tous les deux parce que vous avez partagé la scène au Festival d'Avignon. C'était en 2010. Richard II, un souvenir précis qui vous lie, peut-être un peu traumatisant pour vous, Florence Delay. Oui, je vois que tous les deux, vous avez pensé à la même chose. Qu'est-ce qui vous était arrivé à l'époque ? 2010.
Il m'est arrivé que j'aime tellement le théâtre que j'aime jouer, que j'accepte, que j'ai accepté de jouer le rôle d'un, en plus, vous comprenez, d'un évêque. Alors, ça me plaisait beaucoup. Et pendant que Denis, j'avais une scène importante. Et pendant que Denis récitait une grande tirade importante du roi sur les malheurs des rois et finalement leur destin funeste, au fur et à mesure que la tirade avançait, j'ai senti que mon texte, ma réplique, se retirait. Et c'est un sentiment effroyable. Je savais très bien ce que je devais dire, je devais le réconforter. Je devais lui dire de ne pas abandonner, de se reprendre, de recouvrer ses forces. Mais comment ça a commencé ? Et à ce moment-là est revenu aussi l'effroi que je ressentais quand j'étais souffleur moi-même, parce que j'ai été souffleur à Avignon dans le trou et je soufflais à Jean Villard.
Et là, t'étais dans ce
trou. Et là, déjà, je souffrais beaucoup, parce que je ne savais jamais si Jean Villard faisait un effet de voix, n'est-ce pas, dans une diction assez intellectuelle qu'il avait. Oui. S'il disait, par exemple, « le vent, monseigneur !» Alors, est-ce que c'était... est-ce qu'il avait un trou ? Bon, bref. Revient cet effroi, et puis arrive la fin de la tirade de Denis. Je pense qu'il y a eu dans mes yeux bleus un grand effroi. Et je lui ai dit, « Maître, reprends-toi. » J'ai tout joué sur la langue française, qui est quand même...
Ah oui, mais là, en plus, l'ambiguïté est très belle.
Ouais. Et l'ambiguïté...
Ah ben, magnifique.
Et au quart de tour, il a repris.
Vous avez compris ce qui s'était joué là, Denis Podalydès ?
Je ne sais pas. C'est des moments dans la cour d'honneur, en plus, d'une telle intensité, d'une telle électricité que la mémoire après s'est brouillée. Je me rappelle du regard de Florence, un mélange d'effroi et de très grande tendresse qui voulait me donner tout ce qu'elle pouvait. Je reprends toi. Et bon, dans ces cas-là, il y a quelque chose en nous qui sent que l'autre tend la perche. On reprend, on ne sait pas exactement dans quel état de
est-ce
conscience.
Est-ce que je peux poser une question ?
Bien sûr, Florence Delay.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des trous de mémoire ?
C'était la question que je voulais poser aussi.
Ah oui, 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 j'en ai eu de très abyssaux. Ah. Oui, oui, à la Comédie Française, une fois, le deuxième vers du rôle de Matamor dans L'Illusion Comique.
Oh.
Et le personnage doit dire, il est vrai que je rêve et ne saurais résoudre lequel je dois des deux, le premier mettre en poudre, du grand Sophie de Perse ou bien du grand Mogor, vers que j'adore. Et j'ai dit, il est vrai que je rêve et j'ai pensé, oui, je rêve, mais absolument, je rêve complètement, je ne suis pas du tout là, je suis perdu, je ne sais pas quoi dire. Et je suis ressorti très lentement. Et j'ai été regarder ma brochure et j'ai regagné très lentement ma place sur la scène et j'ai repris.
Ah, ça
a été un trou immense, mais que les gens n'ont pas vraiment éprouvé. Ils n'en ont pas éprouvé, en tout cas, la sécheresse dans laquelle j'étais. Ils ont cru que c'était un effet de mise en scène.
Bravo. Tiens,
il dit son premier mot, puis il s'en va.
Et voilà.
Ah, il revient.
Voilà. C'est donner du temps au texte.
Ça donnait du temps. Mais à chaque fois que j'ai... Mais les trous de mémoire, c'est très drôle. C'est... Après, le texte qu'on dit a souvent du sens, une sorte de sens second dans notre propre vie, qui fait que... Et là, c'est il est vrai que je rêve qui m'a fait basculer dans mon propre rêve personnel.
Comme toujours, Denis Podalydès, vous avez plusieurs vies. Samedi dernier, vous repreniez Avignon à vie de Pascal Rambert au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Vous l'aviez déjà lu dans la cour d'honneur du Palais des Papes au Festival d'Avignon en 2013. Vous êtes à l'affiche du dernier film de votre frère Bruno Podalydès, Comme un avion. Vous reprenez la semaine prochaine votre mise en scène du Bourgeois Gentilhomme, dont on entendait la musique de Lully en ouverture. Et puis chaque soir, on vous entend ici dans Guerre et Paix. Vous savez où vous en êtes dans Guerre et Paix ici ?
Ben, je crois que je dois être à la page 400 et quelques, mais c'est
premier
c'est,
tome.
C'est peu, c'est un premier tome, c'est deux tomes de 1000 pages en édition folio, et je crois qu'on n'ira pas au bout.
Je reviens sur le Bourgeois Gentilhomme que vous allez reprendre. Je lisais que vous vous identifiez à Monsieur Jourdain, donc ce Bourgeois Gentilhomme, car il est d'une ignorance abyssale, mais il veut apprendre à tout prix, quitte à s'humilier en chemin. Qu'est-ce que cette comparaison dit de votre propre parcours au théâtre, par exemple ?
J'adore les personnes absolument naïves devant le savoir et qui ont un désir de savoir beaucoup plus grand que le ridicule qu'ils risquent d'affronter. Et il y a une réplique qui m'émeut toujours quand Pascal Rénéric l'a dit. C'est sa femme lui dit « Mais n'iriez-vous pas vous faire donner le fouet au collège ? Plût à Dieu le recevoir le fouet et devant tout le monde et apprendre ce qu'on apprend au collège. » Je transforme un petit peu la phrase, mais c'est ça l'idée. Il va jusqu'à risquer la fessée en public pour apprendre. Ce désir de savoir, aussi naïf soit-il, avec le peu de résultats, finalement, il apprend quoi ? À dire les « a » et les... C'est magnifique d'ailleurs, c'est la leçon du maître de philosophie, c'est d'une ampleur. Et donc, ce personnage est éminemment comique, ridicule, mais dans le sens moliéresque du terme. Ridicule, il prête à rire, mais il n'est pas ridicule, stupide.
Florence Delay, vous, quels sont les personnages qui vous attirent plus particulièrement au théâtre ?
Ça, c'est une question. Non, ce que je voulais, j'aimerais ajouter, ridicule et émouvant.
Oui.
C'est ça qui est très très fort, c'est que finalement, on rit beaucoup, et puis quelque chose vous rejoint. Alors c'est étonnant que ça rejoigne Denis Podalydès, parce qu'il n'a pas à se plaindre du côté de la connaissance, mais quand même. Alors les personnages au théâtre, oh là là, ils sont trop nombreux, parce que je suis un peu une girouette, vous savez, je tourne. Et donc à une époque, c'est le XVIe siècle et ma passion, j'aime la Cléopâtre captive, j'aime les premières pièces françaises, et puis ensuite je passe au XVIIe, et puis je deviens très éprise de Marivaux, et puis après je ne pense plus qu'à Musset, et puis après, donc je bouge beaucoup et j'aime bien cela.
Émilie Chaudet.
Denis Podalydès, dans ce même théâtre des Bouffes du Nord, vous avez lu dernièrement, samedi et dimanche dernier, Avignon à vie, un texte que Pascal Rambert a écrit en pensant à vous. Est-ce que sa vision du Festival d'Avignon correspond à la vôtre, vous qui avez vécu une de vos premières expériences de comédien à Avignon ?
Je dirais totalement. Ce qui m'aime beaucoup dans ce texte, c'est que Pascal et moi sommes de la même génération. Tous les spectacles, d'ailleurs, c'est un peu aussi le cas des 7 saisons de Florence Delay qui retrace des spectacles qui m'ont entièrement formé quand j'avais une vingtaine d'années. Et ce texte est une célébration aussi des grands spectacles, des grands metteurs en scène et des grands acteurs qui sont venus au Festival d'Avignon. Pour cet amour qu'il a du festival, je le partage entièrement. Il a une expérience différente de la mienne, puisqu'il y est venu beaucoup plus tôt.
En tant qu'auteur, metteur en scène, avec les Parisiens.
Exactement. Alors moi, je n'y suis venu qu'en tant qu'acteur et lecteur, parce que je suis très souvent venu au festival en tant que lecteur. Et cette folie de venir à Avignon, venir manger du théâtre pendant un temps parfois indéterminé, comme les gens viennent, l'émotion qu'il a devant ces cohortes de spectateurs qui viennent suer sang et eau pour trouver des places dans la cour d'honneur, au Célestin, au Carme, mais aussi dans le festival Off, partout dans Avignon, cette émotion-là, je la partage entièrement.
Et votre Avignon à vous, ça serait quoi, Florence Delay ? Parce que le théâtre, le Festival d'Avignon, ça commence tôt pour vous. Ça commence en 1956, avec Villard, justement.
Ça commence
régisseuse.
Oui, j'étais stagiaire. Je veux dire stagiaire, pas stagieuse. Oh.
Stagiaire régisseuse.
Non, régisseur stagiaire, je tiens au masculin pour l'émission.
Très bien.
et donc là, j'ai fait plusieurs choses. J'ai balayé. J'ai soufflé et j'ai fait de la figuration. Et je passais dans une pièce que j'aime beaucoup de Jean Giraudoux en tenant un panier à linge par une anse. De l'autre, il y avait la belle Claudine Auger et ma réplique était « Oh là là !» Oh là là ! Eh bien, ça a été très important pour moi, cette
réplique. Oui. Je réplique, on peut mourir de trac pour un « Oh là là !»
Le texte de Pascal Rambert, vous l'aviez lu justement en 2013 dans la cour d'honneur du Palais des Papes. La mise en scène est très simple, hein, vous l'avez presque décrite en parlant de lecture. On parle même de mise en espace généralement pour ce genre de choses. Vous êtes seul au milieu de la scène, le texte à la main et vous le lisez. J'imagine que c'est important de le lire et non pas de le dire. En tout cas, lire, c'est dire autrement. Pourquoi fallait-il que ce texte-là soit lu et non pas, j'allais dire, joué, interprété ?
Parce que au départ, il n'y avait qu'une seule date prévue. Je devais ensuite en faire une ou deux à Gennevilliers. Et donc, Pascal voulait m'épargner le travail quand même très conséquent d'apprentissage, de mémorisation de ce texte qui est d'une grande densité, d'une très grande difficulté. Il est déjà extrêmement difficile à lire. À apprendre, ça demanderait du temps, mais je le ferai peut-être un jour d'ailleurs. J'aime m'enfourner de grandes tartines de textes, donc c'est pas ça qui me fait peur. Mais là, il se trouve que Pascal aussi tenait à ce que ce ne soit que lu.
Xavier Delaporte.
Je n'étais pas tout à fait seul parce que j'étais dans la salle, mais ce n'est pas de problème ce soir-là. Mais un chat a traversé la scène hyper doucement. Vous savez, comme un chat peut le faire, quoi, avec une sorte d'absence de conscience du public qui était vraiment d'une très grande beauté à voir. Et il est passé et les gens ont commencé à rire parce que. À rire du chat qui passe sans que vous en rendiez compte.
Je ne m'en rendais pas compte et j'entendais les gens rire. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai ? Sans doute, je n'ai pas fermé ma braguette.
C'est ça.
Ou j'ai fourché et j'ai dit un mot inconvenant. Et tout en lisant, j'essayais de réfléchir pourquoi les gens riaient.
Et vous avez dit un truc dont je ne me souviens pas, mais qui était pas mal trouvé.
Je ne sais pas. Et à un moment, je crois que le chat a traversé la diagonale et il m'a donc dépassé à un moment. Je crois que j'ai salué Jean Villard, quelque chose.
Ah, c'est ça.
Âme de Jean Villard, salut, quelque chose comme ça.
Il vous a méprisé d'ailleurs, ce chat, avec un.
Oui, il m'a regardé avec honneur hauteur, il a continué son chemin. C'était une autre époque.
Oh, je pense que c'était vraiment Jean Villard alors.
C'était probablement Jean Villard.
Émilie.
Comme chaque soir à chacun de nos invités, on vous a demandé, Denis Podalydès, de nous apporter un son que vous aimez et voici ce que vous avez choisi.
Oui, c'est violent, oui, et alors. Et quand le support se retire, c'est juste blessure narcissique, Audrey. Et tu voudrais que je pleure, que je dise comme je te pleure, que je dise mon amour, ma chérie, le monde est mal fait, le monde est injuste. Non, Audrey, le monde n'est pas mal fait. C'est la fiction dans laquelle nous l'enfermons qui le rend laid. L'amour n'y échappe pas. Il figure au premier rang et toi et moi en étions ses acteurs zélés.
Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi ?
Eh bien, c'est un passage de Clôture de l'amour de Pascal Rambert que j'ai vu hier soir joué par Pascal, qui alterne avec Stanislas Nordet, qu'on entendait là. Et j'ai adoré ce spectacle, comme beaucoup de spectateurs. Il m'a ému vraiment au cœur du cœur.
Et c'est international, hein, il est traduit dans plein de pays, il est repris
l'histoire
par les institutions
de ce texte
partout.
Très, très étonnant.
C'est incroyable. Oui,
oui. Ouais. Au Mexique, en Thaïlande.
Il a été joué 140 fois, je crois.
Oui, c'est un. Pascal a touché sans le savoir, ou sans le savoir, à quelque chose d'universel. C'est la rupture amoureuse. Et la langue est si belle, le spectacle est si bouleversant que je crois que chacun s'y reconnaît. Et c'est porté par ses acteurs, Audrey Bonnet, Stan, là qu'on entend. Et puis j'ai joué cette année avec Stanislas Nordet et ça a été
Audrey Bonnet et Emmanuel Béart
dans répétition de Pascal et voilà, je vais reprendre ce spectacle avec eux à la rentrée et c'est un bonheur particulier. Et aussi je salue Stanislas Nordet qui est directeur maintenant au TNS et que je trouve qu'il est un des très très grands hommes de théâtre de ma génération. Nous sommes pas tout à fait du même âge, mais
un mot sur la façon très particulière qu'a Pascal Rambert de diriger, ou plutôt de ne pas diriger, d'inventer un théâtre en temps réel. Ça veut dire quoi pour vous, qui êtes par ailleurs metteur en scène, Denis Podalydès ? Comment il vous dirige, notamment pour répétition ?
Par exemple, pour répétition, le texte nous est adressé à nous. Nous jouons d'une certaine manière, pas nos propres rôles, les personnages portent notre nom, mais il a écrit véritablement pour nous. Et chacun des textes contient effectivement je dirais presque le mystère de la personne qui le joue. Pas du tout des détails biographiques, mais je ne sais pas, dans un certain ton, c'est très difficile à dire, mais qui fait qu'on se sent totalement responsable, acteur, mais responsable, plus responsable qu'acteur du texte. Et on répétait par grand filage, tout simplement. On enchaînait la pièce et ensuite, on en parlait. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une direction « Tiens, mets-toi un peu plus là, là, tu vas me le dire un peu plus comme ci, comme ça. » Non, c'est « Je te donne ce texte et ensuite, on en parle. »
Je crois que j'ai vu la pièce le jour où vous vous êtes mis nu dans cette pièce. Et c'était la première fois, alors que vous l'aviez déjà joué un petit peu auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'ensuite, ça a été gardé.
Ça a été gardé, puis finalement, Pascal un jour m'a dit « Oh, bon, non, ne le fais plus ». On était assez variables d'une représentation à l'autre. Non, à un moment, j'ai senti qu'il fallait ça pour que je paye, comme dirait l'autre, ma livre de chair. Le personnage termine comme un chien, dit qu'il est un chien. Et Pascal me disait, à la fin, il faut que ce soit une espèce de provocation absolue, d'une certaine manière, qui ne soit pas ton genre, qui ne soit pas une sorte d'excès de ta personne. Et je l'ai traduit en scène. Je n'ai pas du tout pensé.
Direct, en direct.
C'est en direct. Voilà. En fait, sans doute, j'avais envie de donner quelque chose à Pascal, comme une sorte de sacrifice, je ne sais pas, c'était quelque chose à ce spectacle, aux partenaires. Non pas que ma chair nue soit un don particulièrement magnifique à voir, mais il me semblait que c'était bien pour lancer Stan ensuite. Et puis après, quelques temps plus tard, non, surtout parce qu'il faisait un froid de gueux. Et quand arrivait la fin du texte, j'assumais un petit peu moins, surtout que je devais rester couché ensuite un temps assez long, donc à la suite de ça, Pascal m'a dit c'est plus la peine, mais je sais que je le referai et que tantôt je le referai, tantôt non.
Le rendez-vous, la chronique.
Florence Delay, Denis Podalides, on vous retrouve dans quelques instants. Tout de suite, la chronique du jeudi de Xavier Delaporte, rédacteur en chef de Rue 89, dont nous sommes partenaires. Ce soir, donc, romantique.
Romantique, oui, Rome antique. Parce que la revue... Le numéro d'été de la revue Books, la très bonne revue Books, est consacré à la cuisine. Parmi les nombreux et passionnants articles, l'un a provoqué en moi une petite excitation. Cet article de Glenn W. Bowersock, qui est professeur émérite d'histoire ancienne à Princeton, s'empare d'une question dont on ne mesure pas à quel point elle peut être importante, la pierre à meuler. Et l'auteur de préciser que son évolution de cette pierre à meuler fut décisive. L'invention des meules rotatives a transformé cette tâche épuisante qui était traditionnellement dévolue aux femmes, celle de broyer donc les céréales. La meule rotative permettait en effet de moudre plus rapidement et sans mobiliser le haut du corps. Là, on se dit que la meule rotative aura permis aux femmes des sociétés céréalières de l'Antiquité de s'émanciper, ou au moins de ne plus se tuer le dos pour nourrir des hordes de mâles peu reconnaissants. Pas exactement. Car Bowersock précise, l'alimentation des légions romaines reposait sur la fabrication et la mobilité de ces appareils nouveaux, lourds et coûteux qui approvisionnaient les troupes en farine. Ainsi donc, si l'on en croit les spécialistes, cette révolution technologique que fut la meule rotative explique, en partie parce qu'il y a d'autres raisons, cet événement essentiel de l'histoire de l'Occident que fut l'Empire romain. Car, comme le remarque Rachel Lauden, professeur d'histoire à l'université d'Austin au Texas et auteur d'un livre sur la cuisine et les empires, un millénaire et demi allait s'écouler avant qu'une autre armée européenne ne soit aussi bien nourrie. On ne sait pas laquelle c'est, mais c'est pas grave. J'imagine que pour beaucoup, le rôle de la meule rotative dans l'histoire du monde est une évidence. Pour moi, ce fut une quasi-découverte qui provoque plusieurs réflexions. La première, la nécessaire caducité des technologies. Les technologies, contrairement aux idées, sont presque toutes vouées à être remplacées par d'autres plus performantes. Peut-être parce que les idées ne sont pas performantes, mais ça c'est une autre question. Donc la nécessaire caducité des technologies fait que, rétrospectivement, on a du mal à imaginer qu'un truc aussi basique, aussi grossier que deux pierres rondes posées l'une sur l'autre et percées en leur centre d'un axe permettant leur rotation, et donc de broyer les céréales, ait pu être révolutionnaire. Ainsi, sans doute, les générations futures auront du mal à concevoir que nous, ayons pu considérer Internet comme quelque chose de révolutionnaire, que nous ayons pu être bouleversés par Internet, que nous ayons consacré autant d'énergie à le fabriquer et à le comprendre. Deuxième remarque, les technologies, si elles ont un impact fondamental sur l'évolution des sociétés, et donc sur l'histoire du monde, sont souvent les oubliés de l'histoire racontée. Par exemple, gageons que sur la vie à Rome pendant l'Antiquité, nous savons plein de choses beaucoup moins importantes que le rôle joué par la meule rotative. Par exemple, on ne sait plus ce qui se passait par exemple, dans les arènes. Et en un sens, c'est triste, moins pour la meule rotative en elle-même qui s'en fout un peu, que pour tous ces gens qui sans doute ont passé du temps à les construire, ces meules rotatives, à les utiliser, à les transporter, à les améliorer, peut-être à les voler, à les nettoyer, à les comparer, à en discuter. Ainsi, quand les générations futures raconteront ce qui nous est arrivé à nous, êtres humains du début du troisième millénaire, peut-être oublieront-elles de parler de l'Internet et du numérique.
Et, ça peut et de toutes vos chroniques qui le concernent.
Ah, oui. Non, ça restera peut-être.
Ah, peut-être. Ah, oui, bah, oui. Le miracle de la technologie.
Voilà. Ou le goût pour le commentaire. Donc, vous m'avez quand même cassé la chute de ma deuxième remarque. C'est pas grave, je reviendrai à la troisième. Ouais. Bon. L'histoire du commun a presque oublié donc, la meule rotative et son importance énorme. Alors même que son règne s'étale sur
d'un plus d'un millénaire et demi, et qu'il en reste nombre d'exemplaires trouvés tout autour du bassin méditerranéen. On peut encore aujourd'hui voir des meules rotatives dans les musées, les toucher, on peut les porter. Comment pourra-t-on se souvenir des technologies numériques alors qu'on peut supposer que leur règne ne durera pas un millénaire et demi, ou alors sous des formes beaucoup plus variées que la meule rotative, qu'elle est restée assez stable pendant tous ces siècles, et qu'elles laisseront ces technologies beaucoup moins de traces. Non que le numérique ne soit pas physique, il y a des câbles, des centres de données, des serveurs, des antennes, des ordinateurs, etc. Mais ce qui fait le cœur du numérique, ce qui se transmet à travers tout ça, c'est-à-dire les informations, les bits, ce qui nous transforme, ce sont ces informations, ce sont elles qui fabriquent des textes, des images, des sons, tout ce qui nous bouleverse aujourd'hui. Et malgré tous nos efforts pour conserver cela, qu'est-ce qu'il en restera dans deux millénaires ? C'est difficile de le dire. Bref, la meule rotative nous rappelle que ce que nous vivons sera peut-être peu de choses au regard de l'histoire. Et ça, non seulement c'est très joyeux, mais en plus, je crois que je suis le premier à le dire.
C'était ça l'important. Ça vous inspire quelque chose, Denis Podalydès, Florence Delay ?
Est-ce que vous avez compris ? Parce que
les gens comprennent. Ah non, on comprend de plus en plus.
C'est vrai. Comparaison entre Internet et la meule rotative.
Ah, merci.
Il veut chaque fois avoir des bons points, des images.
Non, c'est pas ça. Je veux que les gens comprennent, parce que vous dites à chaque fois qu'ils ne comprennent pas.
Alors. Non, pas du tout. Depuis quelques semaines, voire quelques mois, j'ai l'impression que tout le monde comprend autour de la table. Et moi aussi.
Merci. La relativité de toute révolution, finalement.
C'est ça, je vous dis. Super.
Le rendez-vous.
Vous devez dire la vérité à votre juge.
Prenez garde, vous qui vous dites mon juge, vous assumez une grande charge.
Nous vous requérons de prêter serment.
Faut-il jurer deux fois en justice ?
Voulez-vous jurer simplement et absolument ?
Vous pouvez bien vous en passer.
Nous vous requérons de jurer de dire la vérité.
Je dirai la vérité, mais je ne dirai pas tout.
Vous vous rendez suspecte en ne voulant pas jurer de dire la vérité.
Il ne faut plus m'en parler.
Nous vous requérons de jurer précisément et absolument.
Je dirai ce que je sais, mais encore pas tout.
Je dirai la vérité, mais je ne dirai pas tout. C'est presque le commentaire, on dirait, de vos livres. Florence Delay, écrivaine, actrice. Écrivaine, ça vous va ou non ? Écrivain.
Non, écrivain.
Pour quelle raison ? Vous, de l'Académie française. Petite mise au point.
Il n'y a pas de neutre en français. Et dans la langue française, le masculin joue le rôle de neutre. Et quand il y a des fonctions, les fonctions sont au neutre. On s'est bagarré pendant des siècles, nous les femmes, pour devenir docteur, médecin, avocat. Avocat, avocate, ça marche très bien. Mais professeureux, auteureux, écrivaineux, c'est affreux. Moi, je suis très heureuse d'être un écrivain. Et c'est un neutre. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Tout à fait.
Amen.
C'est parfait, la question est parfaitement réglée.
Mais réglée, mais
c'est pas... Passons à autre
chose. Florence Delay, écrivain, actrice, scénariste et traductrice, notamment d'auteur de théâtre espagnol, académicienne aussi, on y reviendra. On vous entendait là dans Le procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, vous aviez 20 ans, un tournage que vous évoquez dans La vie comme au théâtre, chez Gallimard. Enfin, vous ne l'évoquez pas véritablement d'ailleurs, ce tournage, vous évoquez le phrasé, c'est-à-dire ce qui dans cette voix peut avoir quelque chose de théâtral. Vous dites, il m'a appris à faire entendre le point à la fin d'une phrase et à baisser d'un ton, et aussi à dépouiller sa voix de toute intention pour ne faire entendre que les mots. Et dans pas mal d'articles que j'ai lus, vous revenez sur un point précis de vocabulaire, c'est sur le « oui ». Comment fallait-il prononcer ce « oui », Florence Delay ?
C'est un des mots les plus difficiles à prononcer. Parce que quand vous dites « non », vous vous appuyez sur des « mm », des consoles nasales. Et bon, « oui », avec ces trois voyelles, c'est terrible à dire. Et il se trouve que dans « Procès de Jeanne d'Arc », à plusieurs reprises, elle dit oui. Et Bresson n'était jamais content. Et donc, on a fait quelquefois une trentaine de prises pour oui. Et je n'avais pas compris qu'au fond, il fallait dire oui en baissant la voix. Et parce qu'autrement, on entendait oui, 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 oui. Et au bout d'un certain moment, un des figurants de Meudon, qui en avait marre, a dit, eh ben dites donc, le jour de votre mariage, vous saurez quoi dire à la mairie. Et ça m'a toujours, mais ça m'est toujours resté.
J'aimerais
revenir tout à l'heure, ce que vous ébauchiez la comparaison entre lire et jouer, des lectures de Denis Podalydès.
Oui.
Et j'aimerais dire que, par exemple, en poésie, je pense à un livre de Roubaud qui s'appelle « Dire la poésie », c'est la lire. Ce n'est pas la jouer ni la réciter. C'est finalement la lire. Et que dire et lire est souvent, pour certains grands textes, est absolument nécessaire.
Denis Podalydès.
Ah, c'est un texte canonique, le texte « Dire la poésie ». Moi, c'est une Bible, effectivement. Et ce qu'on entend d'ailleurs dans la... dans l'enregistrement et on a revu le film de Robert Bresson, c'est effectivement on ne fait entendre que les mots, c'est totalement dégraissé. Et d'ailleurs vous ne pouvez pratiquement pas, peut-être par la qualité sonore, à peu près dater l'enregistrement, mais il est totalement intemporel. Il y a quelque chose qui traverse le temps avec une énergie, une puissance, parce que c'est totalement dégraissé. C'est la réduction au sens, et cette réduction au sens, mais il faut des personnes qui aient confiance dans le langage, confiance dans les mots et confiance dans la langue pour atteindre cette diction absolument dégraissée. C'est jamais facile à obtenir. C'est très simple à dire, à décrire. Hein, on dit, les gens pensent à un ton neutre, alors ça veut dire un ton monotone, un ton barbant, rasant, plat. C'est pas du tout ça. C'est cette confiance dans cette réduction au sens.
C'est drôle parce que je suis en train de lire
Florence Delay,
un texte magnifique de Bernanos qui s'appelle « Scandale de la vérité », un texte désespéré de la France au début de l'occupation. Et il commence par l'abjuration de Jeanne, quand elle dit, par peur du feu, elle abjure. Et elle dit « Oui, mes voix m'ont trompée ». Et brusquement, de cette phrase, il rend cette phrase épouvantable, parce que cette phrase sert à tous ceux qui, par peur, par la torture, par les épreuves, abjure ce en quoi il croit. Voilà, c'est parce que... Et lire Bernanos en ce moment, ça fait beaucoup de bien.
Je peux imaginer. Deux livres actuellement que vous signez, Florence Delay. Il y a La vie comme au théâtre, chez Gallimard, et puis Cette saison, qui est une revue des chroniques que vous avez tenue pendant quelques années, toujours sur le théâtre, avec beaucoup de points communs, bien entendu, entre les deux livres, même si l'un est un récit topographique et l'autre une activité de critique théâtrale. Et pour autant, il y a quelque chose en commun plus précisément qui m'a intéressé, c'est une fausse chronique que vous aviez signée à l'époque, et vous l'avouez ici même dans La vie comme au théâtre, avec un spectacle que vous avez inventé, mais aussi un personnage d'acteur metteur en scène que vous avez inventé. Son nom, c'est Ruggero Sani. Quel était le type d'acteur presque idéal que vous inventiez à travers ce personnage? Et qu'est-ce qu'il dit de votre rapport au théâtre, Florence Delay?
Idéal, je ne sais pas. Mais vous voyez, quand vous parlez d'autobiographie pour La vie comme au théâtre, je dirais que le jeu est peut-être pas moi. Et que si j'aime tant le théâtre, c'est que le jeu existe moins que le nous. Si j'ai inventé Ruggero Sani, et alors c'est étrange parce que vient de sortir un magnifique quarto de Louis-René des Forêts, et le héros des mendiants s'appelle Sani. Et j'ai inventé ce personnage parce que j'avais envie de parler de deux hommes, mes modèles, que j'ai fondus en un seul. Et c'est pour ça que j'ai inventé mon comédien. Il a les traits d'un écrivain et d'un comédien, et il est une fiction. Et puis en fait, cet été-là, j'avais aucune envie d'aller au théâtre, parce que j'avais envie d'écrire un roman. Donc il fallait rendre ma chronique. Donc je me suis dit, je vais tester la véridicité de mon personnage. On verra si les gens qui lisent la chronique y croient ou pas. Et ça a marché. Donc je me suis dit, ma fille, continue ton roman.
Quels étaient ces deux hommes, donc? Je sais qui ils sont parce que j'ai lu dans les 7 saisons. Quels étaient ces deux hommes et qu'est-ce qu'ils représentaient pour vous, pour que vous les ayez fondus en une seule personne? Donc un écrivain et un acteur et un comédien.
Alors l'écrivain est Roger Léventer, qui est un poète, un grand traducteur de l'allemand, et quelqu'un de très à part, de très solitaire, qui vit à Genève. Et l'autre, le comédien, s'appelait, hélas, lui... c'est au passé, Daniel Zerki, et il était vraiment curieux de tout ce qu'il y avait de neuf dans le théâtre, et il montait, enfin il était proche de l'irreprésentable, parce que l'irreprésentable ça a été une fiction des années 80, on portait au théâtre ce qui semblait impossible, par exemple la Penthésilée de Kleist, on se disait c'est irreprésentable, et Daniel Zerki flirtait avec ça et s'en tirait. Par exemple, il a fait un spectacle extraordinaire tout seul, sur Pérec. Un inventaire de Pérec, il était avec beaucoup d'objets. C'était, je ne sais plus quel Pérec c'était, à Beaubourg, tout seul, en déplaçant des objets. Et c'était Pérec. Donc vous voyez, il imaginait des portraits, voilà. Donc j'ai mélangé les deux personnages et j'ai fait semblant, ce qui m'a fait très plaisir, que ce personnage imaginaire existait.
Émilie Chaudet.
En 1963, vous avez 22 ans et vous êtes stagiaire régisseur au sein du Festival d'Avignon. Et cette même année, vous montez une troupe de théâtre avec qui vous répétez avec vos comédiens donc La Dame de Canton de Calderón, une version que vous avez vous-même traduite de l'espagnol. Quel nom vous aviez donné à cette troupe ?
Oh, elle n'avait pas de nom encore. Tout s'est arrêté avant qu'elle ait un nom. Parce que cette compagnie n'avait été créée au fond que pour un spectacle, La Dame Fantôme et le procès, le divorce du corps et de l'âme. C'était un Calderón. Et donc, je n'ai pas eu le temps de la baptiser parce que les catastrophes sont arrivées, j'ai tout arrêté.
Et vous n'avez jamais eu envie de remonter une troupe par la suite ?
Vous dire que je ne suis pas jalouse d'Ariane Mouchkine serait mentir.
10 ans plus tard, donc en 73, vous écrivez votre premier roman, Minuit sur les jeux. Qu'est-ce qui déclenche à ce moment-là le passage à l'écriture ? Vous avez mis le théâtre un peu de côté, vous êtes allé du côté de l'Espagne.
Oh, l'écriture, elle venait dès l'enfance en fait. Dès l'enfance, dès le lycée, j'ai toujours écrit, mais je n'allais pas jusqu'au bout. En plus, au début, je copiais, c'est-à-dire j'imitais. Par exemple, quand j'ai découvert Borges... à 15 ans, j'ai écrit des contes en imitant Borges. Donc c'était quand même assez mauvais. C'était très bien d'imiter, de copier. Mais j'ai trouvé mon... Au fond, j'ai pu commencer par un roman d'éducation parce que je pensais que mon éducation était finie. Et donc à 30 ans, j'ai pensé que je pouvais écrire mon roman d'éducation parce qu'elle était faite. Et chaque 10 ans, je me rends compte qu'il faut recommencer son roman d'éducation et qu'elle est à refaire. Alors, voilà. Donc, en réalité, j'avais écrit un autre roman. Mais il avait été pris par Gallimard.
Ouais.
Mais je l'ai soumis à René Char, qui était un ami de ma mère, un grand poète. Et il m'a dit, c'est un brouillon. Ce livre est un brouillon. Alors j'ai retiré mon roman et j'ai attendu 10 ans.
Mais ce roman, il a été publié finalement ?
Ah non, mais je ne veux pas le publier. La confidente inclinée.
Bah, c'est bien, tu donnes envie de le...
Oui. Ça donne envie de le lire, surtout.
Il y avait peut-être quelque chose qui avait... Oui, le brouillon.
Cette façon-là.
Peut-être René Char.
Comme à tous nos invités, Florence Delay, on vous a demandé un son qui vous a marqué. Voici ce que vous avez choisi. Identification de ce son, Florence Delay, la raison pour laquelle vous l'avez choisi ?
C'est le génie du froid dans l'opéra de Purcell qui s'appelle King Arthur. Je l'ai choisi pour beaucoup de raisons. D'abord parce que c'est sublime, parce que c'est le roi Arthur auquel j'ai consacré tant d'années, parce que c'est ce génie du froid qui accompagne la mort de Molière dans le film d'Ariane Mouchkine. Et c'est un salut aussi à Molière. Et au Graal.
Au Graal que vous avez
avec Jacques Roubaud.
Jacques Roubaud que vous rencontrez très tôt en fait dans votre vie.
Oui, j'étais jeune. Et on a entrepris donc ce cycle un peu fou de 10 pièces autour du roi Arthur justement.
Un cycle irreprésentable ?
Non.
Mais difficile.
Mais difficile. Le vent, monseigneur.
Il est vrai que je rêve.
Maître, oui. Reprends-toi.
Il est vrai que je rêve et ne saurais résoudre lequel je dois des deux, le premier maître en poudre, du grand Sophie de Perse ou bien du grand Mogor.
Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Amen.
Merci à tous nos invités. Denis Podalydès, Le Bourgeois Gentilhomme, ça reprend du 26 juin au 26 juillet au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. On vous retrouve à la Comédie Française dans Lucrèce Borgia et la Tragédie d'Hamlet et le Festival Rambert. Vous êtes le metteur en scène.
Je suis metteur en scène, voilà.
Vous ne pouvez pas tout jouer non plus. Le Festival Rambert Anus est jusqu'à samedi au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Florence Delay, merci beaucoup. La vie comme au théâtre et cette saison, chronique théâtrale 1978-1985, ont paru aux éditions Gallimard. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain...
Allô ? Hey ! Salut mon petit gars, ça va ? C'est mamie. T'as fait quoi ? Un gros caca boudin, mes petits cochons.
Demain, une émission cinéma, théâtre et caca boudin, manifestement, avec Géraldine Chaplin, que l'on vient d'écouter, et Marion Sarraud. La désannonce, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Émilie Chaudet, Isette Wendoy, Elsa Béranger, journal de la culture The SFS, chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Clément Daté et Élise Leu, et à la réalisation Thomas Beau.
Elle parle très vite parce qu'elle essaie d'imiter Catherine Deneuve. Il est 19h53, vous êtes sur France Culture, et c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec vous, Denis Podalydès.
Ah, c'est maintenant.
Mais oui, c'est maintenant. Donc tout de
suite. Je ne suis jamais précédé, c'est la première fois.
Vous vous présentez, Denis Podalydès de...
De la Comédie Française.
De la Comédie Française. Bonne soirée à tous.